Pizen et Valérie. La santé et le bien-être au naturel.
Amis du bien-être, bonjour, ravi de vous retrouver sur Pigo et Radio. On va passer encore une heure ensemble, on espère que vous allez adorer et on va aborder un sujet extraordinaire, la féminité. Alors, on est loin du féminisme, rassurez-vous, on va parler de la féminité et ça concerne autant les femmes d'ailleurs que les hommes. Et pour cette émission, je me suis entourée de Rachel et de Delphine que je vais inviter à se présenter. Bonjour les filles. Alors, qu'est-ce que vous faites de beau dans la vie, dites-nous.
Alors, moi, c'est Rachel Masson, je suis aide-soignante et je développe une activité de praticienne en massage bien-être spécialisée dans le confort féminin.
Waouh, trop bien, ça tombe hyper bien.
Voilà. Et donc, moi, c'est Delphine Couton, alors avec la casquette de sophrologue, sophro-analyste, qui me plaît de moins en moins parce que je dirais que j'accompagne plutôt les personnes à croître. Et à aller bien, et aller bien, c'est s'occuper autant de ses racines que de sa tige, de son axe, de sa verticalité.
Ses branches et ses feuillages.
Et exactement, pour s'ouvrir vers ce qu'on a envie, en fait.
Ah ouais, c'est pas toujours facile de trouver ce qu'on a envie.
Non.
Très souvent, on se rend compte qu'on a envie de choses que les autres potentiellement estiment qu'on devrait avoir envie. Hein, vous me suivez?
Ah,
bon, je vais pas vous embrouiller dès le matin, hein, bien sûr.
Mais,
hein,
mais c'est là où j'interviens. Ah, parce que ça dépend de quoi? De nos blessures du passé.
Oui, c'est vrai. C'est vrai aussi. Alors les filles, c'est quoi pour vous la féminité?
La féminité, c'est accepter ce que l'on est au plus profond de soi. C'est difficile de nos jours, je trouve.
Ouais.
Avec les réseaux sociaux.
Ah, les réseaux sociaux. Oh. On va pas se faire des amis hein, si on tacle les réseaux. Hein. Je vous préviens, les filles.
Oui, mais je pense qu'ils conduisent beaucoup à ne pas s'accepter soi.
Oui, tu parles du culte de l'image.
Le culte de l'image, voilà, tout à fait.
T'as pas le sentiment quand même que même avant les réseaux sociaux, ça existait déjà?
Oui. Oui, oui, oui. Mais je pense que ça s'est beaucoup développé du fait des réseaux.
Ok.
Voilà. Et la féminité, pour moi, déjà, ça commence par s'accepter soi.
En tant que femme, tu veux dire?
En tant que femme.
Ok.
Voilà.
Et pour toi, Delphine, c'est quoi la féminité?
Vaste sujet, féminité, féminin. Pour rebondir quand même sur ce que tu disais avec l'impact des réseaux sociaux, moi je crois que ça vient de bien avant les réseaux sociaux. Bon, on le montre un peu plus, hein, c'est tout. Pour la petite histoire, il y a quelque temps, je recevais une personne. Et cette personne, en fait, a eu beaucoup de mal à être acceptée par sa maman lorsque... premier indice de la féminité, on a ses règles. Et ça a été la cata. Et en fait, ça a été la cata de génération en génération. Donc en fait, pour moi, c'est pas d'aujourd'hui. Alors la féminité, moi je parlerai plutôt d'énergie féminine, qui pour moi c'est l'accueil.
Ouais.
Voilà. Et un homme a cette partie-là, effectivement, du féminin, et comment il accueille, comment il a été aidé à grandir là-dedans ou pas. Et oui. En tant que femme, évidemment, bien sûr.
Oui, effectivement, je pense que ça concerne aussi beaucoup d'hommes. Mon mari en est un exemple parfait d'acceptation de sa part féminine. Pour moi, la féminité, c'est vraiment renouer avec le subtil, avec ce qu'on appelle l'intuition, avec le ressenti, avec la douceur. La douceur, ça ne veut pas dire la faiblesse. C'est en fait cette compréhension que nous avons, je pense, naturellement, mais qui nous est en plus apprise au fur et à mesure du temps. Dans l'éducation, on a aussi ça, ou pas, bien entendu, hein, mais disons qu'on est... quand on est parent, on a tendance à élever les petites filles d'une certaine manière et les garçons d'une autre. Ce qui coupe d'ailleurs très souvent les hommes de leur féminité. Mais on a quand même cette... je pense que c'est lié aux hormones, hein, d'ailleurs. Hein, après, ça, c'est pour ma part, bien sûr. Mais je pense que clairement, on est bombardés, nous, d'hormones en tant que femmes. Et je pense que l'intuition, voilà, ces ressentis, cette subtilité... tout ça peut-être provient également de ces hormones qui nous parcourent. Voilà. Je ne sais pas si c'est véritable parce que la subtilité, on est dans le domaine du non palpable et c'est pas toujours évident de, d'une part, le quantifier ou en tout cas d'en apporter la preuve. Mais pour moi, la féminité, c'est vraiment ça. C'est cette part de subtilité.
Oui, je te rejoins là, Valérie, et notamment quand tu parles de ressenti. Et pour moi, c'est ça aussi le féminin. Mais comment être à l'écoute de notre ressenti quand notre éducation ne nous a pas appris que ce que nous ressentons, bah, c'est vrai, il n'y a pas à le discuter.
Oui, fait. Bien sûr, mais heureusement, tout doucement, en fait, ça se démocratise. Hein, on parle de plus en plus d'accepter ses émotions, de les accueillir, de vivre avec, parce qu'elles font partie de nous. Et puis, nous avons des professions, justement, aussi, qui peuvent permettre aux personnes de renouer avec ses émotions et ses ressentis. Après, ça n'empêche pas de développer de l'énergie, de développer de la force, du caractère, etc., hein, bien sûr. Hein. Mais c'est vrai qu'on a eu tendance pendant très longtemps à mettre la femme dans une cage, un petit truc, c'est un petit truc tout mignon, hein, qui peut procréer tout ça, donc on a été quand même vachement réduite. Alors ça, c'est mon côté un peu féministe qui ressort, bien sûr, et je le dis très souvent, je suis féministe, mais pas fémène, pour moi, ce sont deux notions différentes. Mais en fait, la subtilité et le ressenti n'empêchent absolument pas de développer des compétences qu'on attribue régulièrement aux hommes.
Au contraire, hein, c'est là où on peut toucher notre puissance.
Hein. Oui. Et vice-versa. Mon mari a cette part féminine incroyable. Et c'est vrai que notre couple a son équilibre comme ça. C'est-à-dire que moi, j'ai une part masculine peut-être plus importante que cette part féminine que j'apprends, en fait, tout doucement à apprivoiser. Parce que alors moi, j'ai été élevée à l'inverse. Hein, c'est-à-dire on m'a un peu éduquée d'apparat à être une femme. Voilà. J'ai envie de dire un jouet, mais c'est un peu ça, hein, une poupée. D'avoir la force de caractère, le répondant, la répartie, l'ambition d'un homme. Donc j'ai une part masculine qui est effectivement très importante. Et mon mari n'a été élevé que par des femmes. Donc il a cette part de féminité qui est assez incroyable. Donc il est très intuitif, très pas dans la douceur, mais dans l'empathie. Voilà, des notions qui en général sont attribuées aux femmes. Donc c'est un homme extraordinaire que j'aime énormément. Déclaration d'amour. Je lui en fais régulièrement d'ailleurs, mais il n'écoute jamais mes émissions radio. Donc je le fais de façon totalement sans parti pris en tout cas. Voilà.
Mais l'acceptation de sa féminité, c'est tout un cheminement.
Oui.
Justement. Et comme tu le disais, l'éducation qu'on reçoit fait beaucoup.
Oui, et les rencontres après. Les rencontres au fur et à mesure de sa vie, oui. Ça permet d'évoluer. Après, on n'est pas dans l'obligation d'ailleurs d'accepter sa part de féminité, hein. Il y a des personnes qui...
Tout à fait.
Mais je trouve ça dommage. Clairement, j'ai lutté contre ma part de féminité pendant des années, des décennies. Et en fait, je suis hyper contente de la découvrir, cette féminité. Cette acceptation, je suis une femme, quoi. Oui, oui, bah oui, effectivement, il y a des choses qui peuvent être sympas dans le côté féminin. Donc l'éducation joue, mais les rencontres après permettent aussi de grandir. Et l'accompagnement, bien sûr, puisque ça permet de déconstruire aussi certaines choses de l'éducation.
Et comme tu disais tout à l'heure, cette intuitivité, c'est bien de la recevoir. Et après, qu'est-ce qu'on en fait ?
Ouais. Bah, être à l'écoute déjà. Qu'est-ce qu'on en fait déjà ? La première chose, c'est être à l'écoute de soi-même, en fait.
Tout à fait.
Se dire, la petite voix là qu'on a, dit non, tu devrais pas faire ça. Ben, arriver à l'écouter plutôt que de foncer tête baissée. Alors là, je prêche carrément pour ma paroisse. Mais bon, c'est ok. J'y travaille, les filles.
On est toutes en chemin.
Oui, non, oui, effectivement,
c'est,
ouais.
C'est aussi démystifier tous les accompagnants, quels qu'ils soient. C'est qu'on est juste en chemin, nous aussi.
Bien sûr. Ouais, et à chaque étape de notre vie, on a un chemin différent à parcourir. Et je trouve que le kiff absolu, c'est là. Alors, je parle pour Delphine et moi, puisque Rachel est beaucoup plus jeune que nous. Mais c'est vrai qu'on approche de cet âge, entre guillemets, de raison, où on se fiche un peu plus facilement de plein de choses, en fait, qui nous ont été inculquées. La façon dont les autres vont nous regarder, nous percevoir, ce qu'ils vont penser de nous, etc. C'est vrai que quand on est aux alentours de la cinquantaine, ouais, c'est quelque chose dont, c'est bon, quoi, on a passé, quoi. Après, je dis pas que c'est totalement le cas, je dis simplement qu'on commence. Donc, ouais, je trouve que c'est un âge qui est hyper chouette, ouais.
À condition d'avoir cheminé intérieurement, parce que moi, je reçois des femmes de 50 ans et
qui
n'auront pas de discours.
Oui, bien sûr, également, j'ai aussi beaucoup d'exemples, mais notre accompagnement, c'est aussi faire prendre conscience peut-être de certaines choses. Après, on n'a absolument pas la vérité absolue, mais en tout cas, donner peut-être des prémices de réflexion pour qu'elles puissent se sentir au mieux et le plus épanouie possible. Parce que c'est ça, en fait, hein. C'est devenir une femme épanouie. C'est quoi devenir une femme épanouie ? Après, c'est une définition et une notion qui est propre à chacun, je pense. On n'a pas tous la même notion de l'épanouissement, Mais en tout cas, c'est déjà se lâcher les baskets. Moi, c'est souvent ce que je dis. Lâchez-vous la grappe, quoi. C'est bon. Arrêtez de vous marteler des trucs à tout va. Il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse cela. Il y a qu'à Faucon. Voilà, c'est clairement ça.
Et moi, je leur apprends beaucoup à remplacer le « il faut que » par « j'ai envie de ». Alors là, on ouvre souvent des grands yeux. J'ai envie, bah, je sais pas.
Oui,
je
clairement,
sais pas
c'est
de quoi
ça.
J'ai envie.
Ou j'ai besoin de. Voilà, très souvent, c'est ça. Il faut que je fasse ceci pour moi, pour me sentir mieux. Non, j'ai besoin de faire ceci, cela pour me sentir mieux.
Oui, mais là, il faut déjà entendre ses besoins, Valérie.
Ah oui, mais clairement, bien sûr.
Hein. Allez les trouver.
Oui,
hein,
mais c'est vrai que c'est un travail qui est intéressant, ça. Hein, justement, le fait de se débarrasser de « il faut, je dois » pour se dire « je vais faire, j'ai besoin de, j'ai envie de ». C'est, je trouve, un exercice incroyable qu'on peut tous faire d'ailleurs hein, chez soi. Je vous invite, chers auditeurs, à le pratiquer chez vous, à essayer de repérer les moments où vous dites « il faut que je le remplacer ». Voilà, juste le remplacer, même si ce n'est que dans votre tête, mais au moins le remplacer, et puis vous verrez que ça va ouvrir le champ des possibles, et vous allez certainement vous mettre tout doucement à réfléchir différemment.
Alors, puisqu'on en est aux astuces, j'ai une personne à laquelle je pense, hein, qui est en cheminement avec moi en ce moment, et elle n'arrive pas à se débarrasser de ce « il faut que », mais je sais pas, elles m'ont dit en une heure et demie de temps, je sais pas, j'ai pas compté, mais il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Et en fait, une part d'elle pense que si elle se débarrasse de ce « il faut », elle s'écroule, tu vois. Et alors l'autre astuce que je donnerais, c'est quels sont les bénéfices? Qu'est-ce qu'on en retire? À quoi ça nous sert de dire « il faut que » Parce que si on n'arrive pas à s'en débarrasser, c'est bien que, en tout cas dans notre croyance, c'est que ça nous sert à quelque chose. Sinon, ça ferait longtemps qu'on serait arrêté de le dire.
Mais très souvent, en fait, c'est lié à une espèce de culpabilité et de challenge personnel ou sociétal. Voilà, c'est vraiment... on est habitué à être culpabilisé et à culpabiliser à longueur de temps. Notre cerveau, vraiment, a cette posture, en fait, de nous faire vivre tout ce qu'on connaît et ce qu'on maîtrise plutôt bien. Et la culpabilité, on la maîtrise plutôt bien puisqu'on la pratique depuis l'enfance. Voilà. Donc, c'est vrai que il faut, très souvent, c'est ça. C'est on se met la rate au courbouillon. Hein, clairement, on reste dans cette foutue, excusez-moi du gros mot, mais foutue culpabilité parce que et on s'inflige des choses, mais la société cherche aussi à nous infliger des choses. Ou alors, on intègre ça comme une obligation. Et puis, on est toujours dans le challenge et la compétition. En tant que femme, on l'apprend à personne, on est quand même multicasquette. Hein. J'ai envie de dire fort heureusement d'ailleurs, mais on a plusieurs rôles dans une même journée et donc il faut qu'on soit performante dans tout. Ça, c'est ce qu'on nous fait croire. Il faut qu'on soit performante dans tout. Il faut qu'on soit la meilleure maman, la meilleure cuisinière, la meilleure femme, la meilleure amie, la meilleure thérapeute professionnelle ou autre. Enfin, il faut qu'on soit meilleure partout. Mais c'est pas possible, quoi. Et ils viennent de là. Ça nous permet de continuer un cheminement qui est bien connu de notre cerveau. Et ça, pour s'en défaire, c'est pas évident. C'est-à-dire faire fi aussi de ce qu'on attend de nous, faire fi de ce que la société attend de nous, de ce que les gens attendent de nous. Mais surtout de ce qu'on pense que les gens attendent de nous. C'est ça. Parce qu'en fait, les gens en face, ils sont dans le même cheminement certainement que nous. Et on a toujours l'impression que les autres vont penser ceci, cela, attendent ceci, cela de nous. Or, très souvent, c'est pas le cas. Donc, c'est vraiment de l'auto-flagellation.
Je te rejoins tout à fait, Valérie, sur le fait qu'on se met la pression au quotidien. Il faut être une bonne professionnelle, réussir dans son travail, avoir une carrière. Il faut être une bonne maman.
C'est ça.
Savoir gérer les enfants, les devoirs. Il faut être une bonne maîtresse de maison. Avoir la maison bien tenue, il faut être une bonne épouse, il faut être, comme tu disais, une meilleure amie, qui est à l'écoute de tout le monde, mais au final, qui s'occupe de nous?
Bien sûr.
Ah, qui nous demande, à un moment donné, comment tu te sens?
Oui, et c'est ce qui est chouette, dans, entre autres via l'association Santalier, c'est que donc mon association regroupe des femmes thérapeutes santé et bien-être, et on est toutes dans ce cheminement. Et donc ça permet d'avoir de temps en temps justement des femmes en face qui vont vraiment demander comment on va nous, parce qu'on est dans professionnellement déjà on est dans ce type d'accompagnement, donc on l'applique aussi aux autres. Donc au moins on est ensemble les filles. C'est plutôt pas mal. Et on se demande mutuellement comment on va. Donc ça, c'est chouette. Mais c'est vrai que dans la vie de tous les jours, mon mari en parlait il y a très peu de temps. On a un copain, voilà, qui est très auto-centré. Mais c'est pas grave, hein. Mais c'est vrai que, mon mari est hyper frustré parce qu'à chaque fois qu'il le voit, il dit, je sais qu'on va passer un bon moment, on va boire un verre, ça va être sympa et tout ça. Mais à aucun moment, il ne me demande comment je vais ou comment ça se passe au travail. Par contre, il va parler de lui non-stop pendant 3 heures. Mais à aucun moment, il me demande à moi, si moi je vais bien, si... Et c'est vrai que c'est parfois douloureux, bien sûr. Mais après, tout le monde a tendance à vivre avec sa propre douleur et à rester enfermé comme ça dans sa petite bulle, et puis a du mal à s'ouvrir, quoi. Bon, on ne peut pas refaire le monde de toute façon.
Non, tout à fait.
Bon, la féminité, ça passe aussi par le corps de femme, hein, bien sûr. Alors... moi, je suis pas du tout dans la prétention de parler de genre ou de quoi que ce soit. C'est pas le débat, de toute façon. Hein. Je parle juste d'un point de vue biologique. Hein, voilà. On a aussi cette condition de femme avec nos difficultés hormonales, donc l'arrivée des règles, la puberté. Ensuite, potentiellement, la grossesse, l'accouchement. Ensuite, le retour de couche aussi, parce que ça, on en parle peu. Et puis, la ménopause. Et c'est vrai qu'on a des étapes comme ça dans notre vie qui viennent nous donner une bonne chasse. Général, mais parce que la société aussi a tendance à diaboliser ce qu'on va vivre en tant que femme. Et j'avais envie d'échanger aussi par rapport à ça avec vous. Alors, comme vous le savez, moi, c'est vrai que je me suis spécialisée dans l'endométriose, qui est une pathologie dont on entend de plus en plus parler, mais qui n'est pas récente, hein, qui existe depuis très longtemps. Mais la femme n'est pas censée souffrir, en fait, par rapport à ses cycles, entre autres. On n'est pas censé souffrir quand on est adolescente avec ses règles, on n'est pas censé souffrir pendant la grossesse, on n'est pas censé souffrir non plus à la ménopause. Mais comme on nous a habitués à ça, à diaboliser un peu cet état, c'est vrai que dès qu'on est enfant, on entend « Oh là là, quand tu vas avoir tes règles, ça va être horrible, tu vas perdre des litres de sang, mon Dieu, quelle horreur !» Puis du sang, mon Dieu, c'est sale. Voilà, il y a ça aussi. Après, quand on va être enceinte, on va « Oh, tu vas avoir les jambes qui gonflent, tu vas avoir des nausées, tu vois. » Il n'y a rien de positif dans tout ça. L'accouchement, c'est pareil. En plus, c'est très médicalisé, l'accouchement. On nous fait accoucher dans des positions et postures qui sont absolument pas naturelles. Et la ménopause, alors on n'en est plus rien. La ménopause, c'est la fin de tout. Hein, c'est la fin de la femme, voilà, clairement, c'est un peu ça l'image, hein, qu'on a, vous en pensez quoi?
Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi Valérie, d'où pour moi le besoin et la nécessité de me former justement dans le confort féminin pour accompagner les femmes tout au long de leur cycle de leur vie, donc ça passe par les premières règles, les règles douloureuses, parce que c'est vrai qu'on dirait la femme, elle a des souffrances tout au long de sa vie.
C'est biblique, ça, madame.
Ouais, voilà, c'est... on paye le prix de la pomme.
c'est ça, c'est complètement ça.
Et oui, c'est... je pense qu'il y a une prise de conscience sur justement cet inconfort féminin, sur cette douleur qui va accompagner la femme tout au long de sa vie. Mais je trouve qu'il y a encore du chemin à faire.
Oui, clairement, c'est une éducation. Il faut éduquer les jeunes filles, en fait, en leur demandant d'être en accord avec tout ça. Bien sûr que les règles, c'est pas... Il y a une contraction de l'utérus, donc forcément, ça peut être potentiellement un peu douloureux, en tout cas gênant. Mais on n'est pas censé souffrir. Il y a aussi tout ce qu'on imagine qui va augmenter la douleur. Tout ce qu'on a l'impression qu'on est dans l'obligation de vivre. Voilà, mais c'est pas du tout une obligation. D'ailleurs, il y a des femmes pour qui ça se passe très bien, qui sont en accord, entre autres, avec leur féminité, et pour qui ça va très bien se passer. Leurs règles, elles sont, elles sont ce qu'elles sont. La ménopause, ça va bien se passer. Et c'est comme ça que c'est censé se passer pour tout le monde, pour toutes les femmes.
Alors, c'est censé se passer comme ça. Alors, moi, je suis passée par toutes les étapes, hein, y compris la ménopause, même si ça fait que deux ans que je suis ménopausée. Mais pour moi, c'est une étape de transformation. tu vois, et notamment l'étape de la ménopause, pour moi, ça a été une grande transformation intérieure qui n'a pas été facile. Parce que, à titre personnel, je me suis beaucoup identifiée dans le rôle de mère. Et là, tout d'un coup, eh ben, tu peux plus être mère. Même si c'est pas dans l'esprit, tu dis qu'à 55 ans ou 57, tu vas pas être mère, quoi. Enfin, mais il n'empêche que là, ton corps te dit, ma chérie, c'est terminé.
Oui, c'est pour ça qu'il y a un travail de construction, de déconstruction, de reconstruction
Exactement.
Derrière.
Exactement. Oui. Et c'est vraiment, et c'est ce que j'aimerais faire passer, c'est que toutes ces étapes que nous vivons dans la vie d'une femme, ce sont des étapes pour grandir, pour
oui,
évoluer,
c'est exactement
se
ça.
Transformer et trouver de plus en plus qui nous sommes réellement dans notre essence.
C'est ça, et devenir enfin une femme, en fait, accepter cette féminité-là, ouais. puisqu'elle est multiple, et qu'on n'est pas dans l'obligation d'avoir, ou même d'avoir un utérus, tout court, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont subi une hystérectomie, et qui vivent très très mal, cette perte de la matrice.
Bien sûr, mais énergétiquement, c'est toujours là.
Et voilà, c'est ça, c'est que, effectivement, la féminité, elle ne se limite pas à un utérus, ou à des seins, ou à... Non, du tout. La féminité, c'est un ensemble, c'est un tout.
Oui, tout à fait.
Merci Delphine.
Oh, t'as rien.
Alors moi, je suis pas encore ménopausée, mais bon, ça, en pré-ménopause, ça s'installe tranquillement. Moi, je suis carrément OK avec ça et j'ai renoué avec justement cette part de féminité physique, donc les règles, il y a quelques années maintenant où j'ai arrêté tout moyen de contraception. Voilà, j'ai enlevé mon stérilet, etc. Je voulais plus de corps étranger. Bon, ça m'appartient, c'est une décision très personnelle. Où j'ai renoué vraiment avec mes règles. Donc, je me suis mise à leur parler, à dire, bon, bah, les filles, c'est OK. Vous pouvez venir, vous pouvez voilà, me torturer un peu. Il n'y a pas de souci, je suis OK. Et maintenant, je suis heureuse, en fait, quand elles arrivent. Vraiment. Donc, je me dis, c'est bien. Du coup, j'aurais renoué quand même avec ça juste avant la ménopause. C'est plutôt pas mal. Après, la ménopause, oui, c'est une étape qui va permettre de se concentrer sur autre chose. Pour moi, c'est un peu ça, en fait, la ménopause. C'est-à-dire qu'on n'aura plus en tête donc ce besoin d'être dans la contraception. D'ailleurs, petite parenthèse pour la contraception. Et ça, c'est un appel à vous, les hommes. Nous sommes fertiles 4 jours dans le mois. Ok. Vous êtes fertile 365 jours par an. Comment se fait-il que ce ne soit qu'une question féminine, la contraception? Moi, ça m'a toujours interrogée, ça. Bon, bref, je referme la parenthèse. C'était un petit appel comme ça. Parce qu'il y a effectivement, là, à l'étude hein, des moyens de contraception masculins, ça a toujours été plus ou moins étudié, mais là, voilà, ça s'accélère un peu. Parce que les jeunes générations ont envie de se partager, en fait, entre guillemets, ce fardeau de la contraception. Mais donc, pour revenir à la ménopause, c'est ça. On n'a plus besoin de se concentrer sur la contraception, l'éventuelle grossesse tardive, hein, avec tous les problèmes que ça peut occasionner. Donc, on va pouvoir passer à autre chose et vraiment, peut-être se libérer, voilà, d'une espèce de charge mentale supplémentaire et se redécouvrir et se foutre la paix, clairement.
Ce qui est important concernant la ménopause, je pense, c'est de ne pas voir ça comme une fin.
Oui, c'est
mais
ça.
Mais le début d'autre chose.
C'est clairement ça, c'est un nouveau chapitre, en fait.
Tout à fait. Et ça, c'est, ouais. Je pense qu'une fois qu'on a bien intégré cette idée... Déjà, au niveau du mental, parce que mentalement, au moment de la ménopause, j'y suis pas.
Hein, tu as quel âge d'ailleurs, Rachel?
J'en suis loin de 38, je vais sur 38 ans.
Un bébé encore.
Mais j'ai la chance d'être très ouverte sur ce sujet avec mes collègues, mon entourage qui m'en parle beaucoup, notamment aussi dans le développement de mon activité, étant donné qu'un de mes massages traite des symptômes de la ménopause et de la préménopause. Et pour avoir échangé avec elle, c'est pas que le physique qui prend au moment de la ménopause, c'est aussi tout ce qui va être... l'estime de soi.
Oui, et puis ça s'accompagne de changements corporels aussi. Hein.
Oui, tout à fait.
Et là, on en revient un peu à l'image dont on parlait au tout début de l'émission. Voilà, cette image qui est un peu altérée parce que en plus, après, même en étant ménopausée, donc on a tout qui tourne au ralenti, hein, forcément, donc potentiellement on peut prendre du poids, etc., etc. Eh bien, on a encore ce carcan de l'image. Il faut quand même encore être au top, svelte, dynamique, etc., etc. Donc oui, il y a aussi une charge mentale qui est importante.
Oui, tout à fait. Et vraiment, à partir du moment où on voit ça comme le début d'autre chose et pas la fin d'une vie de femme, déjà là, le cheminement commence à se faire, je pense.
Oui, c'est ça. Mais t'as raison, en fait. D'ailleurs, ça se retrouve même à l'arrivée des règles. On n'est pas dans la fin de l'enfance. On est dans le début de la vie de femme. La grossesse également, c'est pas la fin d'une gestation. Non, c'est le début d'une nouvelle vie avec un bébé. Voilà. Et donc, c'est vrai que c'est intéressant de pouvoir transformer ça en disant non, c'est le début d'autre chose.
Alors, on peut avoir cette notion-là à la tête. Tu vois. Moi, c'est toujours le discours que j'ai eu, tu vois, en accompagnant les femmes. Quand j'étais donc, j'avais une trentaine d'années, parce que, oui, j'ai commencé à accompagner, j'avais 36 ans. Et je leur expliquais ça en long, en large, en travers. J'étais persuadée que pour moi, ça allait se passer les doigts dans le nez. Cool, Raoul. Et en fait, ça c'est venu me cueillir vraiment dans mes profondeurs. Et c'est ça aussi qui est intéressant. C'est que ça vient nous chercher dans des croyances, des blessures qu'on a sans doute vues. Enfin, pour moi, j'avais déjà vu ça. Mais plus profondément, autrement. Pour vraiment aller trouver qui nous sommes.
Oui, et puis c'est toujours plus facile à conseiller qu'à appliquer à soi-même. Hein. Les conseillers ne sont pas les payeurs, les cordonniers les plus mal chaussés, etc., etc. Bah oui, c'est pas parce qu'on passe notre temps à recommander des choses qu'on arrive forcément à se les appliquer à soi. Ouais.
Et tu vois, c'est, je trouve ça très très intéressant parce que moi j'ai vraiment la croyance que tu ne peux amener les gens que là où tu es allé, là où tu as marché. Quoi.
Non.
Bah, j'ai cette croyance, moi, et je sais que j'accompagne maintenant complètement différemment les personnes, les femmes, sur ce chemin-là parce que je l'ai marché.
Oui, d'accord, oui. Tu penses que ça passe forcément par une expérience personnelle ?
C'est oui, pour moi, c'est... moi-même, tu vois, quand ça m'arrive de consulter une personne, je sens quand elle me dit quelque chose qui est vrai, hein, qui va sonner vrai à mes oreilles, mais qu'elle ne l'a pas expérimenté, ou si la personne l'a expérimenté. Pour moi, ça n'a pas le même impact. Et je ne dis pas que l'autre personne qui n'a pas expérimenté, ça n'a pas d'impact. Hein. C'est pas mon... c'est pas ce que je veux dire. Mais il y a un autre impact quand tu l'as expérimenté, quand tu as marché sur le chemin.
Oui, 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 tu as sans doute raison, ouais. Ouais. Ok, bon, je vous propose une courte page de pub, j'allais dire, ben non, de musique. Hein. Oh, ben alors là, mais alors moi, n'importe quoi.
Il n'y a pas de publicité sur Tigouille Radio.
Qu'elle me dit, là, notre régisseuse préférée. Hein. Ça va, je le sais. Je ne sais pas pourquoi, je me suis sentie pousser des ailes. Non, on va faire une courte pause musicale. Et puis, on se retrouve tout de suite pour donner quelques astuces à mettre en pratique au quotidien pour les personnes qui nous écoutent. À tout de suite, les filles.
À tout de suite.
Je le vois, le mec il est là, il arrive, il est poli, il dit bonjour mademoiselle s'il vous plaît. Et c'est différent du mec qui est là, elle vient en baise.
Juste une meuf qui dit non à un mec dans la rue, tu sais pas ce qui va se passer.
Ouais, mais à ce moment-là, on a peur de tout le monde, on parle à personne.
Ah bah bienvenue dans la vie des femmes, oui, bienvenue.
Et l'exagération.
Non mais c'est à ça que doit servir l'intuition féminine.
Bah l'intuition féminine...
Vous l'avez ou pas l'intuition féminine ?
L'intuition féminine, elle donne plus envie de coller des baffes, tu vois, on est déjà sympa de pas le faire. Non mais vraiment.
Vous mettez à notre place deux secondes là dans notre société maintenant. Ouais. On peut pas être un mec. C'est hyper difficile. On sait plus ce qu'on peut dire. On sait plus ce qu'on peut faire.
Et puis toutes les meufs là qui portent plainte, machin, MeToo, blabla, dans le tas. T'en as forcément qui racontent n'importe quoi.
C'est pas possible. Je peux pas supporter cette conversation. Donc moi je me casse.
Ne prends pas personnellement.
Je me casse.
Je suis une graine d'anarchiste, mais oui une bobo gauchiste. Une féministe hystérique, y a pas que mes poils qui piquent. Bien sûr, je desserre ma cause. Mon Dieu, mais comment elle ose? Non, mais c'est quoi cette allure? Viens, on l'aura à l'usure. Arrête de parler trop fort, ça risque de te porter tort. Et puis, c'est pas ça le problème. Les féministes, toutes les mêmes. Arrête de jouer les victimes. L'important, c'est ce qui brime. Mais surtout, la vie des gens. Mais pourquoi tu perds ton temps? Mais parce que je suis libre. avec ton viol. Arrête d'en parler, t'es folle. Tous les mecs sont pas comme ça. T'es agressif, crois-moi. Mais quoi, qu'est-ce qu'il y a encore? Pourquoi t'es jamais d'accord? Ferme donc un peu ta grande gueule, sinon tu vas finir seul. Et puis qu'est-ce qu'elle a la grosse? Nous on aime que les sacs d'os. Arrête de dire qu'on te fait chier, nous on pense à ta santé. Putain, mais qu'est-ce que t'es chiante? L'important c'est d'être bandante. À quoi ça te sert de penser? Tu préfères pas la télé? Non, parce que je suis libre, libre de mon corps, à jamais à la mort. Je suis libre, je suis libre, libre de ma vie. Si ça plaît, je m'appelle irrévérence, je m'appelle impertinence, je m'appelle indépendance, je suis désobéissance, je suis puissance, résilience, je suis émancipation, je m'appelle libération, je m'appelle fond la paix. Regarde ailleurs, s'il te plaît, je m'appelle me parle pas, je suis pas dispo comme ça, je m'appelle passe ton chemin, je m'appelle garde ton venin, je suis détermination, je m'appelle insoumission et je
de retour sur Pigoui Radio. J'espère que ça vous a fait du bien, cette petite pause musicale. Ça va les filles?
Ça va, merci.
Il faut rapprocher le micro.
Oui, impeccable.
Bon, cette deuxième partie d'émission, j'aimerais qu'on aborde des petites astuces pour pouvoir renouer avec sa féminité. Et ça, c'est valable autant pour les hommes que pour les femmes, on est bien d'accord. Qu'est-ce que vous pourriez apporter comme recommandation, vous, dans votre domaine de compétences chacune?
Alors, je vais parler d'une expérience personnelle. Moi, j'ai retrouvé ma féminité et l'acceptation de mon corps quand j'ai commencé à me former au massage.
Ouais. Oui, le toucher.
Voilà. Mmh. Pour moi, c'est passé par cette étape, par le toucher. Et ça a commencé, mon cheminement a commencé par cette étape.
Mmh. C'est une belle, un beau témoignage, ouais.
Voilà, et d'où après mon envie de me spécialiser dans le confort féminin, parce que de ce fait-là, de mon expérience personnelle, je sais que le massage peut aider à faire ce cheminement.
Voilà, donc toi tu recommandes effectivement de se faire masser.
Voilà, tout à fait.
Ok. Est-ce que tu rencontres beaucoup de personnes qui sont dans l'appréhension du massage ou qui angoissent en fait que tu puisses masser certaines zones de leur corps?
Alors, énormément. ça m'arrive régulièrement. J'ai des clientes qui hésitent à venir se faire masser, parce qu'en plus, dévoiler son corps à une inconnue, c'est pas évident. Il y en a plus qu'on ne le croit.
Oui, clairement, oui. On n'est pas du tout habitué à ça.
Et je pense que ma petite casquette d'aide-soignante, avec le respect de la pudeur, joue beaucoup quand même.
Tu masses les yeux fermés ?
Pas du tout. Pas du tout.
Allez,
pas du
sans
tout.
Les mains.
Pas du tout, mais de ce fait-là, le fait d'avoir cette casquette d'aide-soignante, ça me permet justement d'avoir ce rapport au corps, à l'intimité de l'autre, qui ne va pas être peut-être pareil pour tout le monde.
Oui, ok.
Voilà, donc y a une façon d'aborder la personne qui peut tout à fait être dans le respect de sa pudeur.
Alors, tu vois, là, je vais prendre ma casquette de rigolote de service, hein, mais la pudeur, je suis OK, mais quand tu vas te faire masser et qu'on te demande d'enfiler un string dégueulasse en papier, que tu ne sais pas où est le devant et le derrière, ça met un coup à ton égo quand même.
Tout à fait, tout à fait, tout à fait.
Non, je tenais à le dire, c'est important que les gens le sachent.
Tout à fait, mais voilà, ça ne se passe pas comme ça partout. Et justement, je pratique certains massages où, par exemple, on masse le ventre. Le ventre, quand même, hein, c'est...
Bah oui, je suis praticienne et formatrice en tunnel sang, donc oui, je connais bien.
C'est le centre de nos émotions.
Oui.
J'ai beaucoup de clientes qui me disent, le massage du ventre, je ne sais pas si je vais...
Oui,
accepter.
Le ventre, chez la femme en plus, le ventre c'est une zone très particulière parce qu'on n'est pas habitué à être touché au niveau du ventre déjà, et puis ça abrite potentiellement la vie, donc on a un rapport qui est assez perturbé à son ventre quand on a eu en tout cas des enfants, potentiellement on a des vergetures, le ventre a grandi, machin, etc., etc. Et donc c'est une zone qui est quand même très sensible.
Donc j'ai appris à avoir un petit entretien avec chaque cliente avant la séance de massage, pour savoir si éventuellement il y a des parties du corps qu'elles n'ont pas envie, ouais, qu'on vienne titiller, que je ne vais pas travailler. Et ça, c'est propre à chacune. Mais voilà, on voit que le rapport au corps n'est pas toujours évident.
Oui, clairement, oui. Ah, oui. Oui. Et puis, c'est une forme d'abandon quand tu es en massage, hein, de lâcher prise, qui n'est pas évident. Il faut s'en remettre à quelqu'un d'autre qui va, enfin voilà, c'est bon, c'est toute une démarche. Après, il y a certaines personnes qui sont très habituées au massage et c'est ok, mais c'est vrai que quand on fait le premier massage ou le deuxième ou même le troisième, on sait que ça va nous faire du bien, mais potentiellement c'est franchir une espèce d'étape où il faut s'abandonner et se laisser aller. C'est un truc, c'est une notion qui est encore très 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 loin pour moi, mais j'y travaille.
C'est un travail qui ne se fait pas comme ça du jour au lendemain.
Non, clairement.
C'est
le fameux lâcher prise.
Mais voilà, le toucher, le massage, déjà, ça peut aider pour certaines personnes.
Est-ce que tu as des hommes aussi en client ?
Alors, j'ai des demandes d'hommes, mais pas toujours pour les massages.
Alors, oui, alors si, pour des massages, mais avec plus affinité.
Oui.
Hein, qu'on appelle les massages avec finition.
Tout à fait.
Effectivement. Donc, à partir du moment où on est dans le massage, de toute façon, il faut s'attendre à ce genre de demande.
Voilà, tout à fait. Mais non, je n'ai pas de demande d'hommes parce que je me suis vraiment spécialisée dans la prise en soin de la femme.
D'accord, ok.
Voilà, donc
et merci pour
je
elle.
Le précise.
Et toi, Delphine, qu'est-ce que tu peux nous apporter comme recommandation ?
Alors, juste avant mes recommandations, j'ai envie de rebondir sur son histoire de string.
Ouais, je comprends.
Voilà. Parce que parmi toutes les formations que j'ai pu faire, j'ai été formée au Lomi Lomi.
Oui.
Hein, qui est un massage extraordinaire que je ne pratique pas, hein, par choix perso, mais où on apprend justement à mettre deux serviettes de façon à ce que justement les parties intimes ne soient jamais dévoilées. Et j'ai trouvé que, en fait, cette attention particulière qui permet de pas mettre la personne face à un string où tu sais pas le devant du derrière, effectivement, oui, et que tu as des doutes sur la propreté, ça enlève tout. Au moins, la personne est juste avec elle et avec les serviettes qui, effectivement, elles sont propres. Voilà, c'était une parenthèse.
Mais oui, c'est bien. Merci, hein, Delphine.
Et puis, effectivement, pour rebondir sur ce que tu disais, La nudité n'est pas, c'est pas facile, hein, et de se mettre nu devant une personne qu'on ne connaît pas, bah, encore moins. Et moi, j'ai contourné ce problème parce que j'avais envie de masser. Et donc, moi, je masse habillée, puisque la base de mon massage, c'est le nu à taille traditionnel, oui. Donc qui se pratique habillé. Ce qui permet aux personnes quand même d'avoir voilà, le contact.
De garder leur carapace.
Oui, oui, mais en même temps, c'est une façon, on va dire, détournée de les amener à lâcher prise.
Ah oui, bien sûr. Oui, oui.
Voilà, ça c'était la petite parenthèse par rapport au string et à la nudité. Moi, mon conseil, ce serait le mouvement, ce serait la danse, puisque ça a été mon premier métier. Et la plupart des femmes que je reçois ont le bassin complètement bloqué.
Oui.
Très clairement, quoi. Et bah, le mouvement. Allons-y dans le mouvement, quoi. Donc, mesdames, trouvez voilà, la méthode qui vous plaît, qui va vous faire plaisir. Pas celle qui est un devoir, il faut que. Mais celle qui fait plaisir pour bouger, et surtout bouger dans ce fichu bassin. Ouais. De le remettre en vie. Quoi.
Est-ce que tu accompagnes, toi, des hommes ?
Alors, très peu. J'en ai très, très peu. Ceux qui viennent me voir ont une partie féminine très développée. Et en tout cas, en massage, j'ai les mêmes demandes que toi. Donc, moi, je reçois les hommes simplement quand bah, je connais, ou que c'est vraiment une personne que je connais qui me l'adresse.
Sur recommandation.
Sur recommandation, voilà, exactement.
Mmh, d'accord. D'accord. Voilà. Donc, le mouvement et le massage. Et moi, pour ma partie en naturo, alors effectivement, renouer avec le féminin, que ce soit homme ou femme, ça en passe forcément par l'assiette, hein, ça c'est certain. Surtout, principalement, les antioxydants. Vous connaissez les filles, les antioxydants ?
Oui.
Mais bien sûr, c'est les trucs qui nous empêchent de vieillir trop vite. Hein. Oui. On connaît forcément.
Quand on est passé à ton cabinet, on ne peut que connaître.
Oui, c'est pas faux. C'est pas faux. Donc, les antioxydants, ça, c'est pour la partie, voilà, je ne vais pas trop vous tanner avec l'alimentation. Mais après, au niveau du domaine de la phytologie, l'étude des plantes en général, que ce soit la phytothérapie, l'aromathérapie, la gémothérapie et autres, il y a plein de choses qui peuvent nous permettre de renouer avec notre féminin. Moi, j'aime beaucoup la symbolique du féminin sacré. Voilà, je trouve que c'est une notion qui est très jolie, même si ça peut être un petit peu enfermant. Mais j'aime beaucoup cette notion dans sa globalité, c'est-à-dire autant pour les hommes que pour les femmes. Et il y a des plantes telles que la sauge, la courge, qui vont permettre de renouer avec cette féminité-là, en tête, avec cette douceur, cette intuition, etc. Et il y a une huile essentielle que j'aime particulièrement, c'est l'épinette noire. Vous connaissez ?
Voilà. Pas du tout pour ma part.
Voilà, alors l'épinette noire, bon, l'épinette c'est un résineux, donc ça sent un petit peu comme le pain. Voilà, ça, c'est une odeur assez douce qui va permettre d'agir tant d'un point de vue physique, donc en apaisant complètement, mais en redynamisant au niveau des glandes surrénales. Voilà, ça va remettre un peu d'énergie dans le corps et ça va vraiment permettre d'ouvrir l'esprit. Voilà, parce qu'on a très peu parlé en fait de l'esprit, mais le féminin c'est aussi un esprit, un état d'esprit. Donc renouer avec toute cette dimension qui est un peu subtile, de l'intuition, etc. Ça va permettre aussi d'agir sur la concentration, sur l'attention. Alors comment vous expliquer que moi qui ai des troubles de l'attention et d'hyperactivité, bah, j'ai quand même sniffé pas mal de petits flacons d'épinettes noires, hein, clairement. Parce que le mieux c'est ça, c'est en fait de l'utiliser en olfaction. Voilà, juste à respirer au-dessus du petit flacon d'huile essentielle ou de l'appliquer en massage sur les glandes surrénales, donc juste au niveau des reins et éventuellement sous la plante des pieds. Voilà, donc dynamisme assuré, mais apaisement global. Donc ça va venir vraiment agir sur la fatigue physique et psychique et permettre de développer voilà, cette part subtile. D'intuition, voilà. On n'est pas du tout dans le domaine de l'ésotérisme, hein, quand je vous dis ça, hein, c'est vraiment, ça va permettre d'ouvrir un petit peu, alors très souvent on parle des chakras, mais voilà, ouvrir en tout cas cette dimension un petit peu invisible.
Super intéressant ce que tu dis sur cette épinette noire, parce que moi je connaissais que pour le surrénal, pour les dynamiser, et je l'utilisais quand je sentais que mes surrénales avaient besoin d'être boostées.
Ouais.
Du coup, je vais m'en servir autrement.
Et puis ça sent très très bon en plus, l'épinette noire, c'est plutôt pas mal. Après, dans le domaine des plantes, on a plein d'autres plantes en exemple. Mais retenez au moins la sauge, Voilà, et l'épinette noire. La sauge, vous pouvez la consommer dans l'alimentation, bien entendu, mais sinon en infusion. Alors, bon, en infusion, c'est pas toujours facile à boire.
C'est pas voilà. très bon.
C'est
hein.
pas très,
moi, je
très
vois
bon
quand
quand
je la
même.
Donne à mon ado.
Mais c'est
ça
parce que c'est une ado en plus.
Hein.
Mais c'est vrai que bon, la sauge. En fait, il y a des plantes très aromatiques comme ça, comme le thym, le romarin, la sauge, que moi j'aime beaucoup dans l'alimentation. Mais en infusion, mais c'est quand même dur, hein, clairement. Ça me fait toujours rire quand je le recommande en consultation, d'ailleurs, parce que je me dis burk.
Alors, une question, Valérie.
Mais bon,
comment,
c'est efficace.
Comment utilises-tu la sauge dans ton alimentation?
Sur du poisson, par exemple. La sauge, c'est vraiment une plante aromatique qu'on utilise beaucoup avec le poisson.
Donc, la plante sèche.
Ah bah oui, d'accord. Ou même fraîche. Hein. On peut faire aussi des soupes.
Vous voyez,
sauge,
vous avez hein. des recettes de cuisine aussi, ici.
Ah oui, mais alors je pourrais en donner, alors ça, oui. Mais me lance pas sur le sujet, sinon on est là pendant 3 heures. Non, oui, oui, non, mais la sauge, c'est délicieux dans l'alimentation, hein, clairement. Et on l'utilise peu en infusion, et c'est dommage, parce que ça a des vertus incroyables, surtout pour les femmes. Je dis surtout pour les femmes, parce que c'est une plante, d'ailleurs, qu'on ne recommande pas quand il y a eu un cancer hormonodépendant. Voilà, quand il y a eu des antécédents de cancer hormonodépendant, puisque ça mime les effets des hormones. Mais ça va venir soulager autant des règles douloureuses ou trop abondantes qu'une ménopause qui est difficile à passer. Bon, voilà, donc c'est vraiment une plante quand même typiquement féminine, mais qui est aussi très intéressante pour les hommes. Hein. Ils ont des hormones aussi, les hommes, hein, bien sûr. Mais pour les hommes, on va plutôt recommander des graines, des graines de courge. Voilà. Ou là, ça sera plus ciblé, en tout cas pour les hommes. Après, pour les plantes, qu'est-ce que je pourrais vous amener d'autre? La rhodiola, qui est une plante intéressante aussi, tant pour l'énergie qu'elle va nous donner que pour l'apaisement. Ça va aussi soulager certains désagréments liés au syndrome prémenstruel. Donc là, on est vraiment, on parle de la femme, bien entendu. Les syndromes prémenstruels, vous savez, le truc où l'utérus commence à contracter, mais on n'est pas encore en période de règles. On a les humeurs qui sont carrément dans les chaussettes. Hein. On en a ras-le-bol, on a juste envie d'un pilou-pilou, d'un canapé, d'une série Netflix. Voilà. Donc ça va permettre de dynamiser. On a aussi l'amande poivrée, qui est une huile essentielle que les gens connaissent bien, mais qu'on peut consommer en infusion. Là aussi, ça va permettre d'amener un coup de boost, un coup de fraîcheur, hein. Voilà, où on va se sentir mieux. Parce que c'est vrai que les désordres hormonaux au niveau des femmes, ça va amener pas mal de choses physiques qui peuvent être difficiles à vivre. Ça passe des jambes lourdes, aux douleurs des seins, aux maux de tête, à la transpiration un peu excessive, etc. Donc en tout cas, pour vous qui nous écoutez, si vous avez besoin de recommandations en phyto et en aroma ou en alimentation, bien sûr, n'hésitez pas à me contacter, je vous répondrai avec grand plaisir. C'est important de savoir, ce qui est important surtout, c'est de se dire qu'il y a potentiellement une solution, toujours en accompagnement et en complémentarité de votre médecin traitant, mais il y a des solutions envisageables, tant au niveau de l'alimentation que de la phytothérapie, par exemple. Après, moi je suis praticienne aussi et formatrice en Shinetsang, donc c'est un massage viscéral, donc principalement au niveau du ventre en tout cas. Et c'est vrai qu'on note des bienfaits à tous les niveaux, et entre autres sur la zone, sur la féminité, puisqu'on travaille aussi sur la zone utérine et vaginale. Alors, on ne va pas travailler directement dessus, hein, mais on vient en amont. Et dans l'accompagnement que j'ai mis en place, la formation accompagnement endométriose, il y a cette part de Shinetsang qui donne des résultats incroyables, hein, tant sur les douleurs menstruelles que sur le flux trop abondant, par exemple, qui peut être extrêmement gênant, surtout pour les jeunes femmes qui ne sont pas encore complètement OK avec leur corps, etc. Voilà. Après, voilà, vous, les femmes qui nous écoutez, dites-vous qu'en tout cas, ce service de règles, c'est un service d'auto-nettoyage mensuel et c'est hyper intéressant. Il faut faire la paix avec ces règles. J'ai tendance à expliquer tout ça en long, en large et en travers aux femmes qui prennent, par exemple, des pilules qui coupe les règles, et en fait elle se coupe de cette part de féminité qui est hyper importante. C'est dommage parce que vraiment ça permet d'éliminer beaucoup de choses, on parle d'acidose entre autres. Donc voilà, renouer avec cette féminité là, c'est vraiment important. Voilà.
Je sais pas si tu as constaté, mais on a toutes les trois évoqué le ventre,
bien
le
sûr.
Bassin, le centre. Le centre de nos émotions, le centre
l'ancrage.
De la féminité, tout à fait.
D'ailleurs, toi qui pratiques le massage viscéral également, et Delphine qui est danseuse, vous connaissez toutes les deux les psoas.
Bien sûr.
Et ben voilà, les muscles de l'âme. Voilà, ces psoas qui prennent naissance au niveau d'L2, L3 et qui descendent au niveau de... Voilà, qui passent au niveau de l'aine, qui s'accrochent ensuite à ce qu'on appelle le petit trochanter, donc à l'opposé du fémur. Eh bien, ces muscles-là, effectivement, on a tendance à les oublier complètement, alors que c'est, voilà, ils sont indispensables pour justement ce bassin, cette mobilité du bassin, entre autres, et potentiellement le soulagement de toute la zone lombaire et utérine, bien entendu.
Tout à fait. Et du coup, Delphine, tu m'as donné des petites idées, là. Peut-être me remettre à la danse.
Tu as fait de la danse, toi aussi ?
En étant plus jeune, mais ouais. C'est vrai qu'après, une fois que t'es maman, il faut savoir trouver le temps.
Oui, mais complètement, mais t'as raison. Ouais,
c'est
ouais.
Vrai que parfois, à la maison, je mets la musique à fond. Je suis toute seule, hein, complètement, et puis on y va, quoi.
Ouais.
Ouais.
Mais oui, c'est bien, je pense qu'il faudrait que tu t'autorises ça. Oui. Moi, ça fait partie des projets aussi. J'ai été plusieurs années en conservatoire et ça me manque beaucoup. Mais dès que j'ai possibilité, moi, je danse. Hein. Mais dans la rue, partout. Hein. Bon, rien à secouer.
Je danse.
Moi,
je danse. Hein. Je danse. Bah, oui.
Moi,
il
y a de la musique,
l'EHPAD.
Je danse. Hein. Je danse, je chante. Et, d'ailleurs, avec Christelle, petit karaoké, danse et tout, hein, bientôt, hein, normalement. Hein. Parce que la dernière fois, on n'a pas pu le faire. En tout cas, je n'ai pas pu le faire. Mais oui, la danse, ça fait partie vraiment des choses. C'est naturel. C'est naturel. On le voit chez les enfants d'ailleurs. Hein. Ouais. Il y a de la musique qui danse.
C'est naturel,
hein.
Mais.
Ils bougent leurs fesses et hop, c'est reparti.
Moi qui remet le mouvement, la danse, ou en tout cas le mouvement déjà, hein, avant de dire aux personnes qu'elles dansent, le mouvement dans mes accompagnements et notamment mes accompagnements de groupe, mais je vois combien en fait les personnes sont raides, sont. Ah, tu me demandes de bouger les hanches, là. Puis on fait des trucs drôles, style on est assis par terre et puis on se déplace, tu sais, sur les fesses. Mmh. Avant, les
hanches, mais ça me fait penser à un avant, super exercice, recules. Le hula hoop.
Mais,
tu te rappelles
mais,
de ça,
mais,
le cerceau
mais, bien sûr, mais
c'est
je
incroyable,
leur fais
faire. Ça. Mais oui.
Et
hein.
Alors les bassins qui ne bougent pas, qui ne tournent pas.
Ben non, oui.
Donc c'est important de remettre tout ça en route. Ouais.
Bon, bah écoutez, merci beaucoup les filles. Je suis ravie de vous avoir eu à mes côtés ce matin. J'espère que vous avez pris du plaisir aussi. Je vais vous laisser donner vos coordonnées parce que ça peut être intéressant pour les gens qui nous écoutent.
Mais merci à toi Valérie. C'est vraiment un plaisir de te retrouver à
oh,
chaque
t'es
fois.
Mignonne, t'es mignonne.
Alors, pour un petit rappel, Rachel Masson, praticienne en massage bien-être spécialisée dans le confort féminin. Je pratique l'activité à domicile. Je me déplace avec ma table.
Quelle courageuse.
Et j'interviens sur le secteur Saint-Mexant-Niort.
D'accord. Et quel est ton numéro de téléphone ?
06 51 42 47 63.
Merci. Voilà. Et toi, Delphine ?
Alors, merci à toi, Valérie. Super, encore une émission de partage avec vous deux. Donc moi c'est Delphine Couton, donc je fais plein de choses pour accompagner, à être bien, à mettre du sens dans sa vie, en individuel, en groupe. Alors en présentiel c'est à Saint-Symphorien et j'accompagne en visio aussi. Mon téléphone 06 60 41 23 04 et on trouve tout ça sur mon site Douceur d'être soi.
Oui, et puis vous qui nous écoutez, rappelez-vous que j'ai une association de femmes thérapeutes santé et bien-être, donc c'est très large, hein, ça va du massage à l'hypnose, à l'ostéo, enfin voilà. Et donc sur internet, vous tapez santalier.fr et vous verrez un annuaire sur lequel j'ai mis toutes les filles avec la localisation, une petite Google Map et tout. J'ai essayé de faire ça bien. Vous aurez toutes leurs coordonnées. Donc n'hésitez surtout pas à prendre contact. Voilà, si vous avez besoin d'être accompagnées, elles sont toutes extrêmement compétentes dans leur domaine.
Et on se retrouve au festival.
Bien sûr, tu as raison de le noter. Oui. Mais oui, mais j'oublie de prêcher pour ma paroisse. Oui, il faut absolument, impérativement venir nous voir au mois de juin sur Échiré. Alors, ce n'est pas la porte à côté, certes, pour certains, mais c'est un super festival extrêmement bienveillant, en plein air, avec un concert gratuit le soir. Et donc, on sera ravis de vous y retrouver. Et je tanne désespérément Christelle pour qu'on ait un petit truc sur place. Mais bon, c'est encore en pleine négociation.
Hein? Et si tu nous redonnais la date exacte ?
Le 8 et 9 juin.
Bah voilà.
C'est tous les deuxièmes week-ends du mois de juin. C'est comme ça, puisque moi j'ai dit, c'est tous les ans que ça aura lieu. Et cette année, il va être encore plus extraordinaire que l'année dernière. J'en doute pas. Je vous dis à très vite. On se retrouve pour une prochaine émission. Prenez soin de vous, vous avez toutes les cartes en main. N'hésitez pas à retrouver bien entendu cette émission sur pigouilleradio.fr.
Écoutez cette émission tous les premiers et troisièmes vendredis du mois à 16h et tous les premiers dimanches du mois à 15h.
Pigouille Radio, les liens qui font du bien.